J'ai trouvé mamie en haute montagne. La lune était ronde, le hibou muet.
En haute montagne, je l'y ai laissé. À la nuit tombante, j'irai la trouver. Mamie a les pieds comme biche vive. Sa peau est plus blanche qu'au pied de sapin. Si je la
Marie-Claire et Richard Séguin nous chantaient chansons démodées.
Actualité culturelle, le cirque, des accidents, malheureusement, ça arrive. Ébranlé par la chute mortelle de Yann Arnaud, les acrobates ne réclament toutefois pas de changement. C'est un article de Jean Siag. La chute mortelle de l'artiste de cirque français Yann Arnaud, samedi soir à Tampa, a beau soulever des questions sur la prise de risque et les mesures de sécurité des compagnies de cirque, les acrobates qui ont accepté de parler à la presse ne changeraient rien aux normes en place. Samedi soir, Yann Arnaud, 38 ans, exécutait un numéro de sangle aérienne à deux dans le spectacle Volta du Cirque du Soleil. Au moment de rejoindre son partenaire, alors qu'il était en mouvement, à une hauteur de 5 mètres, il a perdu sa sangle et s'est écrasé sur la scène. Il a succombé à ses blessures un peu plus tard à l'hôpital. Une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de la chute. Dimanche, le PDG du cirque, Daniel Lamarre, a toutefois écarté la possibilité d'une défectuosité dans l'équipement. Le spectacle doit reprendre dans 2 semaines au New Jersey, mais le cirque n'était pas en mesure hier de dire si le numéro de sangle allait être conservé. Bruno Gagnon, qui a travaillé pendant 5 ans avec le cirque sur le spectacle Corteo, admet que chaque accident tragique fait réfléchir les artistes de cirque. « C'est sûr qu'on réfléchit à ça », nous a dit l'artiste qui se trouve en France avec sa troupe Flip Fabric. « On vérifie nos équipements, on redouble de prudence, mais il faut savoir que c'est très rare de faire une chute en sangle. La main est vraiment bien prise avec un point d'ancrage. C'est une des disciplines aériennes les plus sécuritaires, plus que la barre russe ou le tissu, par exemple. Est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il a eu un malaise? On ne sait pas. » Depuis quelques années, on a quand même l'impression que le nombre d'accidents mortels, 3 au Cirque du Soleil, ou avec des séquelles importantes, est en augmentation. Ce que Daniel Lamarre explique par le volume de spectacles du cirque multiplié par 1000. Une question demeure. Est-ce que les artistes de cirque prennent trop de risques? L'adrénaline qu'on ressent quand on fait un numéro dangereux, la réaction du public, les applaudissements, c'est notre première paye, affirme Bruno Gagnon. C'est un rapport complexe, mais le public vient lui aussi pour voir ce risque qu'on prend et pour avoir des frissons. Même si on ne souhaite jamais qu'il y ait un accident en plein spectacle, l'artiste de cirque Bruno Gagnon qui s'affirmait là-dessus. Est-ce qu'on prend trop de risques en général? Je ne crois pas. D'ailleurs, il y a peu d'accidents vu le nombre de numéros, ajoute-t-il. L'artiste de cirque Maxime Girard, qui est devenu tétraplégique en 2013, après une chute en trampoline lors d'un spectacle à Oman avec la compagnie Millard Entertainment, a le même point de vue. C'est peut-être un triste constat venant de la part de quelqu'un comme moi qui vit avec les séquelles d'une prise de risque, mais le risque fait partie intégrante du métier. C'est ce qui le rend si extraordinaire, si beau, si intéressant. On parle de risque calculé, bien sûr. En fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Il faut connaître ses limites parce que c'est vraiment nous qui nous poussons, qui voulons être les meilleurs. Mais ce n'est pas toujours facile de connaître ses limites. Parfois, on a envie de pousser plus loin. C'est une question d'orgueil. Avec l'augmentation du nombre d'accidents, Maxime Girard croit qu'il faut prendre encore plus conscience du risque. On ne peut plus faire de la pensée magique et se dire que ça ne nous arrivera pas. Ça m'est arrivé. Et là, c'est arrivé à Yann, alors que normalement, les sangles, c'est hyper sécuritaire. Mathias Ploll, qui a travaillé avec le Cirque du Soleil dans les spectacles Z et Iris et les 7 doigts, a eu l'occasion de réfléchir à la question l'été dernier. L'artiste d'origine argentine a eu un traumatisme crânien lors d'une chute au mât chinois, dans un spectacle présenté sur une scène extérieure par Montréal complètement cirque. S'il n'y avait pas eu de tapis, je ne serais pas là, parce qu'on était dehors. Ça m'a sauvé la vie. Mais ça dépend des disciplines, indique celui qui est maintenant complètement rétabli. Moi, je ne crois pas que ça vaut la peine de mourir en faisant du cirque. Je veux faire autre chose plus tard, avoir des enfants, dit Mathias Ploll. Personnellement, je ne me suis jamais poussé trop loin. Si je suis fatigué, j'y vais plus tranquillement, c'est tout, explique M. Ploll. Mais des accidents, malheureusement, ça arrive. Comme ça m'est arrivé. Est-ce que certains artistes vont trop loin? Ça se peut, mais en général, je ne crois pas. La vérité, c'est qu'on peut mourir en faisant n'importe quoi. Malgré ce risque, c'est quand même mon métier. Mais je ne ferai jamais quelque chose qui pourrait mettre ma vie en danger. Et je suis sûre que c'était pareil pour Yann. Il y a moins de 2 ans, l'artiste de cirque Karina Silva Poirier, qui avait un numéro aérien dans le spectacle La Nouba du Cirque du Soleil, s'est fracturé le crâne après avoir fait une chute de 30 pieds lors d'une répétition. La jeune femme a miraculeusement survécu à l'accident, mais elle est toujours en réadaptation. La cofondatrice des 7 doigts de la main Gypsy Snyder n'a pas voulu commenter l'accident de Yann Arnaud, mais elle croit que le nombre d'artistes de cirque est en cause. Le risque est le même, mais aujourd'hui, avec la multiplication des sports extrêmes et du nombre d'artistes de cirque, j'ai l'impression que cette prise de conscience du risque est peut-être moins bien comprise. Il reste que c'est l'essence du cirque, dit Mme Snyder, cofondatrice des Sept Doigts. Est-ce qu'avec la popularité croissante du cirque et le nombre de plus en plus important de spectacles qui sont présentés, les artistes ne vont pas un peu plus loin qu'avant? Oui, plus les gens prennent des risques acrobatiques élevés, plus ça entraîne les autres à en prendre, admet Gypsy Snyder. Par contre, on a une règle d'or. Si un artiste n'est pas dans son élément, on ne se sent pas capable de faire un numéro. Pour quelque raison que ce soit, on lui dit de ne pas le faire. Même si c'est au milieu du spectacle, on s'en fout. Je parle toujours à nos artistes de l'intelligence de l'acrobate. Il n'y a rien de plus facile que d'enlever un numéro ou de le remplacer par autre chose. On adapte le spectacle. Si on n'est pas capable de faire un show qu'on va pouvoir jouer 8 fois par semaine, ça sert à quoi? La face cachée de la Lune, extraordinaire spectacle solo créé par Robert Lepage il y a près de 20 ans, sera de retour à Montréal du 3 avril au 11 mai 2019 au Théâtre Jean Duceppe. Cette pièce culte du créateur de Québec qui a été montée pour la première fois en 1999 et qui a été adaptée au cinéma par Lepage en 2004, raconte l'histoire de deux frères qui font face à la mort récente de leur mère. Yves-Jacques, qui a pris le relais de Robert Lepage à l'affiche de la pièce depuis 2003, il la jouait encore l'automne dernier à la Grande Halle de la Villette à Paris, incarne à lui seul tous les personnages. Une performance qui demande une virtuosité hors du commun dans une pièce à voir ou à revoir. Les billets sont en vente depuis hier midi. Après 22 ans à la direction générale des Grands Ballets canadiens de Montréal, Alain Dansigère quittera ses fonctions à la fin de l'année pour se consacrer à ses projets personnels. Le temps est venu de me tourner vers d'autres aventures et de m'ouvrir aux belles surprises que nous réserve la vie, a indiqué M. Dansigère ou Dansigé dans un communiqué. Un comité de sélection sous la présidence de la présidente du CA, Constance V. Patty, sélectionnera le successeur de M. Dansigère dans le but d'assurer une transition harmonieuse. Et le divan orange affichait complet dimanche soir pour le spectacle d'Avec pas de casque, le dernier de l'établissement du boulevard Saint-Laurent qui doit fermer ses portes. Il y avait de l'émotion, de la tristesse et de la nostalgie dans l'air. De multiples représentants de la scène musicale, jadis appelée locale, c'était donné rendez-vous dont n'avait confié Safia Nolin et des membres du groupe Canaille. Stéphane Lafleur, le chanteur et parolier d'Avec pas de casque, a dit d'un ton doux amer se sentir dans une sorte de conventum rock. Lors d'un vibrant discours de remerciement au nom de tous les anciens employés, Michel Tremblay a rendu hommage à un lieu de rencontre, de découverte et d'amis. Après de nombreux spectacles mémorables, Patrick Watson, Cœur de pirate, Lassa de Sella, Fleet Foxes, etc., depuis son ouverture en 2004, le divan orange doit fermer pour des raisons financières. Pour l'avenir de la scène émergente, les membres de son ancienne coopérative demandent aux différentes instances gouvernementales de soutenir les petits lieux de diffusion qui sont considérés comme des bars, donc qui n'ont aucune subvention.
On vient d'entendre en trio Ariane Moffat, Karim Ouellet et La Bronze qui nous chantaient « Aimons-nous ».
Libre, journée internationale de la francophonie pour un Français fier de lui-même. Le Français ne doit pas perdre son âme, dis-je bien, dit Jean-Michel Delaconté. C'est Christian Rioux dans Le Devoir d'aujourd'hui, correspondant à Paris. On entendait à la radio un chanteur marmonner des paroles incompréhensibles. Impossible de distinguer le moindre mot. Mais pourquoi a-t-on si peur de se faire comprendre, demande Jean-Michel Delaconté. Comme si l'on avait honte de chanter en français. À la terrasse du café Le Pierrot, à deux pas du métro aérien de la Motte-Piquette, ce spécialiste de Racine et de Saint-Simon parle de ce qu'il décrit comme un aplatissement de la langue. Quand j'entends des gens qui murmurent, qui n'osent pas parler leur langue, qui la maquillent sous des couches de poudre anglo-saxonne, je dis que c'est de la soumission. Je ne supporte pas la honte que nous semblons avoir de notre langue. Qui se manifeste par l'anglomanie dans la langue standard. L'anglais dans le commerce ne me gêne pas du tout, mais je ne supporte plus les fake news et autres start-up. J'ai honte de la honte de mes compatriotes. Pourquoi cette honte de soi? C'est cette douleur que Jean-Michel Delaconté a voulu exprimer dans un essai tonique au titre symbolique « Notre langue française » publié chez Fayard. N'ayez crainte, l'écrivain n'y parle pas de « la langue française », plutôt de « la nôtre », de cette langue de chair qui se tient au plus près de l'intimité et qui s'accouche au forceps, dit-il. Cette langue natale, dont parlait Gaston Miron, que l'auteur cite d'ailleurs à la fin de son livre. Pas plus que Miron, Delaconté n'est un puriste. Sa langue n'est pas tout à fait celle de Malherbe qui, dit-il, serre trop le corset. Mais c'est encore moins celle de la soumission. C'est au nom de l'insoumission politique et linguistique que j'ai écrit ce livre, dit-il. Non pas contre l'Amérique, mais contre la soumission à l'Empire américain et au matérialisme ambiant. L'envahissement de l'anglais n'est qu'un aspect. L'essentiel, c'est que la langue française perd son âme si elle quitte ses fondations premières, qui sont la poésie et la volonté politique. Car le français n'est pas tout à fait une langue comme les autres. Dès sa naissance, il eut partie liée avec la littérature et la beauté, comme l'a montré le linguiste Bernard Cerchiglini. Avant d'être la langue d'une population ou d'une région, le français fut une langue de clercs. Le proto-français naquit en effet au 9e siècle avec les serments de Strasbourg et la cantilène de Sainte-Eulalie. Le français est d'abord un acte politique et poétique, dit Delaconté, ce qui impose un rapport particulier à l'esthétique. La création de l'Académie française est représentative de ce lien que le français entretient avec la politique. La beauté doit servir la politique. Or, aujourd'hui, ce lien fondamental se dissout. C'est pourquoi je suis totalement opposée à l'écriture inclusive qui signe l'arrêt de mort de la poésie et très rétif devant la novlangue et l'invasion de l'anglo-américain dans la langue courante. Avec le climat d'une forme de matérialisme outrancier, de la technicité envahissante qui tue le ciel, cette langue perd son cœur, elle se rabaisse et s'aplatit. C'est à ça que je m'en prends. Pour cet écrivain passionné par la littérature de la Renaissance et qui compte une vingtaine d'ouvrages à son actif, la langue française est aussi liée à une certaine idée de la grandeur. Il est difficile d'employer ces mots aujourd'hui, dit-il. On passe pour un facho ou un facho. Or, cette idée de la grandeur de la langue est en train de s'effondrer. Depuis des siècles, la France a été portée par sa littérature. Elle a été perçue comme la patrie du livre. Leur abandon me semble emblématique d'un abandon plus large au sein de l'école. Pardon. Pourtant, l'écrivain, qui a aussi été pendant 20 ans au service de la diplomatie culturelle française au Japon et en Israël, ne désespère pas. Il reste, dit-il, des lieux de résistance où l'on entend un excellent français. Il pense au prétoire où règne encore une certaine éloquence. Sur le net, de nombreux sites sont rédigés dans une langue soignée. La langue de qualité, on la trouve aussi chez les professeurs et parfois même à la télévision. Si la littérature est souvent mince, elle a le mérite d'exister. De la Comté se réjouit aussi de l'étonnante popularité en France du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquet, qui veut restaurer la dictée et un grand oral à la fin du lycée. Les gens sentent que ce n'est pas une question secondaire. Dans beaucoup de familles, parler convenablement relève d'une forme de politesse et de respect de l'autre. Je suis sensible au souci du président Macron d'une langue qui a de la tenue. Est-ce que ça annonce quelque chose? On peut penser qu'il y a une volonté de redonner du souffle à la langue. De la Comté en a contre ceux qui identifient la... Je reprends. De la Comté en a contre ceux qui identifient la correction linguistique à une forme d'élitisme. Aujourd'hui, si vous défendez une langue substantielle, volontaire qui tend vers la beauté, vous passez pour élitiste. C'est à partir de mai 68 que cette idée s'est répandue, dit-il. Pourtant, cette génération, la sienne, n'avait-elle pas été formée à la faveur d'un foisonnement littéraire et intellectuel qu'on ne peut même plus imaginer? Plutôt qu'une égalité par le bas à l'américaine, l'écrivain prêche une égalité par le haut à la française. C'est l'idée de Richelieu et de Malherbe de faire en sorte que le poissonnier et le noble puissent se comprendre. À cette époque, parler une langue rigoureuse et de qualité devint une exigence de l'unité nationale dans le cadre du rapprochement entre protestants et catholiques. La beauté dans tout cela, c'est que pour peu qu'il y ait une éducation, nous sommes tous égaux devant la langue. L'égalité par le bas ne serait d'ailleurs qu'une illusion. On ne va pas rendre la langue hospitalière en la dénaturant et en l'abaissant. Une langue pauvre vous enchaîne. Elle devient vite un instrument de domination idéologique, alors qu'une langue riche permet de conceptualiser et donc d'être libre. Il en va de la démocratie et de la possibilité de penser librement et par soi-même. Que pense l'écrivain qui a parcouru le monde de l'avenir du français que l'on dit aujourd'hui en Afrique? Je ne suis ni souverainiste ni mondialiste, mais j'accepte le monde comme il est. Mon raisonnement est d'une simplicité biblique. Il faut renforcer la langue et l'image que nous avons de nous-mêmes. Cette fierté est nécessaire pour affronter la mondialisation. Je n'ai rien contre le métissage. Il faut être hospitalier, mais pour l'être, il faut avoir une maison solide. Après, on peut se mélanger. Jean-Michel de la Comté rappelle qu'il y a quelques années, le grand spécialiste de la littérature du Moyen-Âge, Michel Zinc, avait mis ses compatriotes en garde contre une fragmentation du français semblable à celle qu'a connue le latin à la fin du premier millénaire. « Pour moi, il faut un chêne. C'est la langue française dans sa dimension classique. Alentour de ce chêne fleuriront toutes les langues franco-africaines. Ce que je reproche aux souverainistes, c'est de ne vouloir que ce chêne. Ce que je reproche aux mondialistes, c'est qu'ils ne veulent plus de chaîne du tout. Je ne vois pas pourquoi il faudrait s'effacer au profit d'une langue du vaste monde qui n'aurait plus d'ancêtres. Restons nous-mêmes pour accepter l'autre et dialoguer. Pourquoi le rapport à l'altérité passerait-il par un effacement de nous-mêmes? Point d'interrogation. C'était donc, en cette Journée internationale de la francophonie, une lecture du texte « Pour un Français fier de lui-même, le Français ne doit pas perdre son âme », dit Jean-Michel de la Comté, texte dans Le Devoir d'aujourd'hui, de Christian Rioux. Voilà, c'est tout. C'était la dernière édition du quotidien de l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du printemps 2010. Non, non, c'est l'édition de l'hiver, donc 2017-2018, hein, parce que l'hiver commence en décembre 2017 et finit maintenant, dans quelques minutes, parce que le printemps, c'est à midi 15. À demain!